Et maintenant, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10 à Washington. Un moment très attendu et très préparé aussi. Début ce soir aux États-Unis des auditions publiques de la commission parlementaire qui enquête sur l'assaut du Capitole. On en parle dans un instant avec notre invité du jour. On ira aussi à Los Angeles, au sommet des Amériques, où se trouve notre confrère haïtien du Nouvelliste, Franz Duval. Et puis, comme chaque jour, bien sûr, le journal de la première, ce sera avec vous, Alex Léveillé. De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
On va parler de la vague de violence aux Antilles, en Guyane, et des chiffres des homicides qui ne cessent d'augmenter en ce début d'année. C'est aussi le cas du Covid qui est en augmentation et puis nous parlerons de tourisme pour contraster tout cela.
Rendez-vous dans une deux minutes, Alex, et bienvenue à tous.
RFI. The World's Voices.
Ça ne commence que ce soir, mais c'est déjà le sujet sur toutes les chaînes américaines, et ce depuis plusieurs jours. Le début des auditions publiques à une heure de grande écoute de la commission de la Chambre des représentants, celle-là même qui depuis un an enquête sur le rôle joué par Donald Trump et son entourage pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir le 6 janvier 2021, quand une horde enragée et persuadée que la victoire leur avait été volée avait envahi le Capitole à Washington, alors que les élus étaient rassemblés au grand complet pour certifier la victoire du démocrate Joe Biden. En ligne avec nous des États-Unis, Antoine Yoshinaka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de New York, à Buffalo. 1 000 000 d'entretiens, plus de 100 000 documents collectés. Cette commission de la Chambre n'a pas chômé depuis bientôt un an. Jusque-là, elle travaillait à huis clos. Vous allez nous expliquer les raisons de ce passage de l'ombre à la lumière, Antoine Yoshinaka. Mais d'abord, peut-être on peut dire un mot des témoins qui seront auditionnés ce soir, donc les tout premiers. De qui s'agit-il ?
En fait, ce soir, nous aurons l'occasion d'entendre les témoignages d'une policière qui était présente lors de l'insurrection au Capitole, Madame Caroline Edwards, donc qui va nous raconter ce dont elle a été témoin, la violence et lors de l'invasion. Et deuxièmement, nous aurons également, et ça va être très intéressant aussi, nous aurons le témoignage d'un documentariste britannique du nom de Nick Quested qui a eu accès à plusieurs rendez-vous. Il filmait en fait plusieurs rendez-vous clandestins entre différents membres de groupes ou de groupuscules de milices d'extrême droite qui étaient alliés au président Trump, donc dans les jours précédant l'invasion du Capitole.
Notamment les Proud Boys, cette milice d'extrême droite.
Exactement, et il va nous, et ils sont accusés d'ailleurs de complot, de sédition, et on va avoir des images de ce documentariste qui va nous parler justement de ce dont il a été témoin, les rendez-vous et la planification dans les jours qui ont précédé l'invasion du Capitole.
Des auditions donc et des images que l'on verra ce soir sur quasiment toutes les grandes chaînes, sur tous les grands réseaux, à une heure de grande écoute, ça sera le prime time. C'est un vrai show, ça a en tout cas été pensé comme tel.
C'est tout à fait. Et il faut souligner aussi que traditionnellement aux États-Unis, la soirée du jeudi est souvent la soirée avec les plus hautes cotes d'écoute. Donc, ça va être sur tous les grands réseaux de câbles, de chaînes câblées, sauf évidemment les réseaux câblés conservateurs qui ont pris la décision de ne pas transmettre les auditions publiques et de simplement soit les ignorer complètement ou de les critiquer, les travaux de la commission comme étant des travaux, une attaque partisane, une chasse aux sorcières. En fait, donc la réalité chez les conservateurs, ça va être complètement différent.
Au premier rang desquels, de ces réseaux, je précise, il y a Fox News. Le but, on le comprend bien, c'est donc d'attirer l'attention des Américains, mais concrètement, pour leur dire quoi ce soir ?
C'est pour tenter, écoutez, on veut faire le lien entre Trump, son entourage, leur tentative évidemment de faire renverser l'élection, ça c'est une chose, mais également les préparatifs en vue de l'invasion du Capitole. Et ces préparatifs-là, évidemment, ça c'est peut-être pas Trump lui-même qui les a fait, mais on veut tenter de faire le lien entre ces deux aspects des événements là qui ont culminé en fait avec l'évasion du 6 janvier.
Et avec peut-être de nouvelles preuves, on peut s'y attendre ou pas ? Des choses nouvelles peuvent-elles surgir ?
Peut-être. Ça, c'est, écoutez, on va le voir et on va l'entendre ce soir et dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, parce qu'il faut souligner que ce soir, ce n'est que la première de plusieurs auditions publiques. Est-ce qu'il y aura des preuves irréfutables? Je ne sais pas. J'imagine qu'il va y avoir quand même des preuves assez accablantes, du moins. Et tout ça dans le but de mettre aussi de la pression sur le ministre de la Justice fédérale, Merrick Garland, qui, évidemment, doit décider à un moment donné, un jour ou l'autre, de soit d'y aller de l'avant avec des accusations aux criminels là, envers les membres de l'équipe Trump ou même de Trump lui-même. Voilà. Et donc, on va tenter de lui mettre de la pression aujourd'hui.
Parce que voilà, effectivement, il faut rappeler un petit peu tout ça. C'est-à-dire que le département de la justice mène de son côté sa propre enquête sur cette attaque du 6 janvier. Le ministre Merrick Garland estime apparemment que pour le moment, il n'a pas suffisamment d'éléments pour poursuivre Donald Trump. La question est donc, est-ce que ces auditions publiques, là, vous nous dites, afin de faire pression, elles peuvent peser sur une éventuelle décision de la part du département de la justice?
Certainement, et ce seront les auditions, mais ce seront également évidemment les rapports qui seront publiés, parce que plus tard cette année, il va y avoir des rapports officiels qui vont donc être publiés par la commission. La commission de la Chambre des représentants ne peut que faire des recommandations. Elle n'a aucun pouvoir d'émettre des chefs d'accusation ou quoi que ce soit. Et donc, il va en revenir au ministre de la Justice. Et je crois que le ministre de la Justice, Merrick Garland, il veut s'assurer de faire ses travaux de manière très indépendante. Donc, il prend son temps. C'est une des raisons pour lesquelles il ne se dépêche pas trop. Il veut s'assurer d'avoir toutes les preuves nécessaires avant d'y aller, avant de décider d'émettre des chefs d'accusation.
Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu, il est évidemment politique, hein, inévitablement, si j'ose dire, en cette année électorale. On rappelle élection demi-mandat en novembre. Est-ce que ces auditions, elles peuvent changer, ne serait-ce que l'opinion d'un seul Américain, quand on sait la polarisation extrême sur ce sujet et cet événement du 6 janvier?
Oui, c'est une très bonne question. Écoutez, on est tellement polarisé en ce moment que pour la moitié de l'électorat, bon, on va complètement ignorer ce qui se passe. L'autre moitié, elle a déjà un parti pris, si vous voulez, en faveur des travaux de la commission. Mais il reste néanmoins des électeurs, disons, on les appelle les centristes ou les indépendants, qui, eux, peut-être auront l'occasion de décider finalement est-ce que oui ou non le Parti républicain est un danger ou est-ce que Donald Trump est un danger. Écoutez, dans un contexte électoral quand même où au plan national, les deux grands partis sont souvent nez à nez. Hein, chaque grand parti a 45% des voix. Il y a un 10% là, qui est au centre qui peut faire basculer l'élection d'un côté comme de l'autre. Donc, en théorie, oui, mais du point de vue électoral, c'est sûr que les enjeux lors de l'élection de 2022, ça va rester les enjeux économiques, les enjeux sociaux et non pas ce qui s'est passé le 6 janvier.
Mais comme vous le précisiez au sujet des grands réseaux de télévision conservateurs, ça pourrait aussi apporter ces auditions de l'eau au moulin des partisans de Donald Trump pour dénoncer un acharnement contre l'ancien président.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on, d'ailleurs, on l'entend déjà. Hein, les critiques ont déjà été publiées. On a commencé déjà. On entend les commentateurs conservateurs nous dire que bon, c'est une attaque partisane, une chasse aux sorcières. On s'acharne sur l'ex-président et tout ça dans le but, selon les conservateurs, selon les républicains, dans le but de détourner l'attention, parce qu'en ce moment, tout va mal au pays, donc on détourne l'attention loin de la présidence de Joe Biden, plutôt pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé le 6 janvier.
Et qui, lui, reste d'ailleurs très silencieux à ce sujet. Hein. Juste un petit mot très rapide, on fait beaucoup le parallèle en ce moment entre cette commission et celle qu'avait suivie après le scandale du Watergate, hein, qui avait abouti à la démission de Nixon en 1974. Il y a des similitudes, certes, Antoine Yoshinaka, mais il y a aussi beaucoup de différences.
Oui, écoutez, il y a des similitudes. On parle évidemment d'audition publique sur les agissements d'un président. Donc, c'est quand même c'est majeur là, comme audition publique. Tout ceci étant dit, à l'époque, on parle des auditions en 1974. Le président Nixon était à l'époque toujours en poste, tandis que Trump, évidemment, ne l'est plus. Et vous l'avez mentionné plus tôt, la polarisation partisane aujourd'hui est beaucoup plus profonde. Écoutez, à l'époque, 1974, il y avait beaucoup de républicains. Nixon est un président républicain. Il y avait beaucoup de républicains, tant au Congrès que dans la population, qui étaient prêts à critiquer Nixon et même de demander sa destitution. Tandis qu'aujourd'hui, on regarde tous les sondages, et il n'y a que une petite minorité de républicains qui sont prêts à...
Les temps ont bien changé, en effet.
Les temps ont bien changé.
Merci beaucoup, Antonio Chinaka, professeur de sciences politiques en direct avec nous, de Buffalo, donc, pour ses premières auditions. Ça va s'étaler jusqu'au 21 juin.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
On reste aux États-Unis, direction la côte ouest. On est à Los Angeles avec vous, Christophe Pagé, bonjour.
Bonjour.
Los Angeles, où se tient depuis le début de la semaine le sommet des Amériques qui a officiellement en fait été inauguré hier soir.
Oui, le président Joe Biden a ouvert hier le sommet qui, précise le Los Angeles Times, se tient pour la première fois aux États-Unis depuis sa création en 1994, mais qui est assombri par les retombées de l'exclusion des dirigeants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela, considérés comme des régimes autoritaires par les États-Unis. Du coup, Joe Biden a insisté dans son discours d'ouverture présentant la démocratie comme un emblème de notre région. Ce qui n'empêche pas, au Chili, le journal La Tercera de blâmer dans son éditorial cette stratégie d'exclusion en citant la ministre des Affaires étrangères chilienne, Antonia Urrejola. En ces temps d'après-pandémie et de crise économique, il faut aussi avoir un espace de dialogue au-delà de nos divergences. On ne peut pas améliorer la situation des peuples cubains, nicaraguayens ou vénézuéliens en pratiquant l'exclusion.
Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce point.
Le Los Angeles Times a interviewé la dissidente cubaine Caroline Barrero, 35 ans, présente au sommet comme d'autres dissidents des trois pays exclus. Elle estime qu'il est naïf de penser que c'est par le pouvoir de la persuasion que l'on fera changer Cuba de manière d'agir. De toute façon, pour elle, le simple fait que la Havane soutienne l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait la disqualifier de participer à un rassemblement occidental qui appuie la démocratie et la souveraineté nationale.
Ce sommet des Amériques, en marge duquel Joe Biden va rencontrer aujourd'hui son homologue brésilien, Jair Bolsonaro.
Oui, Jair Bolsonaro arrivait en retard, note au Globo, du coup il n'a pas participé à la photo de famille. Il faut dire, note le journal, que les rapports entre les deux présidents sont assez froids. Folia de Sao Paulo rappelle que Jair Bolsonaro remet en cause le résultat des élections américaines de 2020, remportées par Joe Biden. Le quotidien précise que, selon le conseiller à la sécurité, Jake Sullivan, les deux hommes parleront effectivement élections, mais aussi préservation de l'Amazonie. Plus largement, d'ici vendredi, à ce sommet des Amériques, doivent être signés des engagements sur la démocratie, l'immigration, l'intégration numérique ou encore des partenariats sur la santé, explique Folia de Sao Paulo.
Exclu du rendez-vous, on l'a dit, le Venezuela, qu'à cela ne tienne, son président Nicolas Maduro est en Turquie pour signer des accords.
Des accords sur le tourisme, l'agriculture et les finances, et ça ressemble fort à un pied de nez au sommet des Amériques. Diario dos Mil Uno précise en tournée présidentielle, Nicolas Maduro parcourt différentes nations d'Europe et d'Asie pour signer des accords qui bénéficient au pays.
Pendant que Joe Biden a hier réaffirmé le soutien des États-Unis à l'opposant Juan Guaido, que Washington reconnaît comme président par intérim du Venezuela. Lui a bien fait le déplacement à Los Angeles pour suivre ce sommet des Amériques. Franz Duval, le rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste, qui est avec nous. Bonjour Franz.
Bonjour Michael.
En ligne donc de Los Angeles, la grand-messe de ces pays nord et latino-américains, et l'occasion pour Ariel Henry, Franz, le premier ministre haïtien, de découvrir, écrit aujourd'hui Le Nouvelliste, la grande scène internationale.
Tout à fait. Ariel Henry est premier ministre depuis presque un an en Haïti. Il a déjà participé à des rencontres de la CARICOM, c'était dans la région Caraïbe. Il a été à l'investiture du président du Chili. Mais en réalité, cette sortie du premier ministre avec les membres de son gouvernement, c'est plutôt la première grande sortie du premier ministre Ariel Henry sur la scène internationale. Et là, il change de niveau. La photo a été faite hier soir. Il a été accueilli par le président Biden. Ariel Henry est dans le grand bain. On attend de voir quelles seront les retombées de ce sommet.
Justement, Franz, dans votre éditorial du jour, vous vous interrogez, le miracle aura-t-il lieu?
C'est la grande question qu'on se pose. Haïti traîne un cartable rempli de problèmes qu'on partage avec tous les amis d'Haïti, avec la communauté internationale. Haïti fait part de ses préoccupations, de ses, je dirais moi, même de ses grands problèmes, mais jusqu'à présent, il y a des promesses, mais il n'y a pas de suite. Il y a de l'argent qu'on nous promet depuis des années, cette année encore, mais pour le moment, ça ne se matérialise pas. Il y a des solutions sécuritaires qu'on veut essayer de mettre sur pied avec la police nationale d'Haïti, mais jusqu'à présent, on n'en voit pas les premières manifestations. Et moi, je crois que ce sommet, encore une fois, ce sera l'occasion pour le Premier ministre de rappeler à tout le monde les difficultés auxquelles font face Haïti. Mais qu'est-ce qu'il y aura comme retombée, le nouvel Satan, le miracle, d'autant que le Premier ministre est très seul sur la scène internationale. Haïti n'a pas beaucoup de voix qui font le relais pour parler de ses problèmes. L'opposition est à tonne. Il n'y a pas de personnalité de la société civile, de chanteurs, d'acteurs, enfin d'écrivains. Il n'y a personne qui relaie les cris de la population haïtienne. Il n'y a que le gouvernement qui essaie de faire quelque chose, mais c'est très faible, et d'autant plus que le gouvernement n'a pas la légitimité nécessaire, n'a pas le mandat nécessaire. Et Ariel Henry arrive à ce sommet sans avoir pu signer ce fameux accord avec l'opposition pour avoir une feuille de route claire.
Et c'est à lire donc dans votre éditorial du jour du Nouvelliste. Franz Duval en ligne avec nous de Los Angeles. On vous retrouvera la semaine prochaine en direct de Port-au-Prince. On termine par le Chili, Christophe. Plus d'une centaine de personnes a été intoxiquées au dioxyde de soufre.
105 habitants des villes de Quintero et Puchuncavi dans le centre-ouest du pays ont fini à l'hôpital. Lundi déjà, 75 personnes dont 50 enfants avaient été intoxiquées, toujours par du dioxyde de soufre rejeté par des entreprises. Les cours ont été suspendus dans les écoles jusqu'à ce vendredi, rapporte La Tercera. La direction de l'environnement a pris des mesures préventives concernant 6 entreprises des deux villes qui vont devoir réduire leurs émissions de combustible et de produits chimiques de 50 à 70%.
Christophe Paget, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Alex Léveillé, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Les Antilles et la Guyane touchées ces derniers jours par une vague de violence.
En Guyane, avec 3 meurtres la semaine dernière, le bilan des homicides s'élève à 25 pour ces premiers mois de l'année. En Guadeloupe, un homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par arme à feu hier à Pointe-à-Pitre. C'est le 18e homicide en Guadeloupe depuis le début de l'année. Et enfin en Martinique, c'est un homme d'une vingtaine d'années qui a été la cible de tirs d'armes à feu mortelles hier. C'est le 10e homicide de l'année en Martinique. Hormis les violences avec armes, le Covid aussi préoccupe la Martinique et la Guadeloupe. Plus de 25%, soit 2000 nouveaux cas en une semaine. Un descendant du variant Omicron est en circulation exclusive dans l'archipel. Pour autant, l'impact hospitalier reste modéré. Franck Aristide de Guadeloupe, La Première.
Le R, le fameux taux de reproduction du virus, est repassé au-dessus de 1. La faute très probablement à l'émergence d'un descendant d'Omicron, BA4 ou BA5, quelque peu plus contagieux et de plus en plus présent. En Martinique, il aurait déjà fait exploser les chiffres. Près de 8000 cas aujourd'hui dans l'île sœur. Sur le front des hospitalisations, par contre, l'impact reste modéré pour le moment. 5 personnes sont en réanimation chez nous. Dans les services de médecine, une décrue semble même s'amorcer avec 2 fois moins de malades, 15 la semaine dernière contre 32 la semaine précédente, et toujours 79 patients sous oxygène à domicile. Enfin, cette dernière donnée, qui elle ne bouge quasiment pas depuis plusieurs mois, le taux de vaccination bloqué à 45% de la population en première dose, 25% pour les schémas vaccinaux complets.
Franck Aristide de Guadeloupe, La Première. La Caraïbe aurait la côte auprès des touristes américains selon le classement réalisé par le site Travel Worldwide qui liste 17 territoires en fonction de leur taux de criminalité. Les îles francophones ne s'en tirent pas trop mal. Yasmina Yacoub de Guadeloupe, La Première.
Saint-Barthélemy, très prisé des grandes fortunes et star hollywoodienne, occupe la première place. Saint-Barth qui possède un taux d'homicide avoisinant 0%. C'est à la 6e position que l'on retrouve la Martinique, considérée comme un territoire de choix pour des vacances, avec toutefois une mise en garde contre les vols à l'arraché, notamment à Fort-de-France. L'archipel guadeloupéen inventé pour ses plages au sable noir et sa nature luxuriante occupe la 10e place. Ici aussi, le site soulève un problème lié au vol à l'arraché et rappelle des précautions d'usage, ne pas se déplacer seul à la nuit tombée, ne pas fréquenter les lieux isolés. Le classement se conclut par Saint-Martin, Saint-Kitts et Nevis, la Barbade, l'île de Roatan au large du Honduras, Antigua et Barbuda, la République dominicaine et les Bahamas. En revanche, le site cible Trinidad et Tobago et la Jamaïque comme des îles où le taux de criminalité est le plus élevé, sans faire mention d'Haïti où l'insécurité et la violence explosent actuellement en raison d'une instabilité politique et de la mainmise des gangs.
Yasmina Yacoub de Guadeloupe, La Première. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé, à vous aux équipes de La Première pour refermer donc ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Vous savez que vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI.